Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Ce matin, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso, avec ce projet fou du Burkina de construire son propre satellite. Voilà un sujet qui ne vous a pas laissé indifférent, si j'en crois le nombre de réactions postées sur la page Facebook de notre émission cette semaine. Plus de 400 commentaires. Nous en parlerons évidemment, nous vous donnerons la parole dans le courant des 20 prochaines minutes. Mais d'abord le Mali, autre sujet qui suscite des appels quotidiens et de nombreux commentaires postés sur Facebook et envoyés sur WhatsApp. Le Mali est le bras de fer entre la junte militaire et la CDAO. L'organisation sous-régionale exige un président et un premier ministre civil pour diriger la transition, alors que la junte plaide pour la désignation d'un président militaire. Bonjour Djoumé.
Bonjour Ouran, bonjour à RFI.
Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. Vous demandez à la CDAO d'être un peu plus flexible.
Oui Ouran, je demande à la CDAO d'être flexible, mais encore je lance un appel à la CNSP de vite se ressaisir. Parce que le Mali est membre fondateur de la CDAO et le Mali a signé la charte. Donc, on n'a aucun intérêt de se mettre à dos la CDAO. Sinon, on sera à dos toute la communauté internationale. On n'a pas intérêt. Il faut que le CNSP fasse attention. C'est le M5-RSP qui a commencé cette lutte avec une charte bien conçue pour le redressement de la nation malienne. Le M5 n'est pas que Choguel, n'est pas que Muntaga, n'est pas que Modibo, n'est pas que Mariko. Mais le M5 est constitué par des hommes compétents intellectuels qui sont beaucoup plus capables de diriger le Mali.
Le M5, ce mouvement de contestation qui a organisé les nombreuses manifestations de ces derniers mois demandant le départ du président Ibeka, le M5 dit lors des concertations nationales, la majorité des participants était plutôt favorable pour une transition civile et non militaire. Donc le M5 dit d'une certaine façon que la junte aujourd'hui, en plaidant pour un président militaire, trahit une partie du peuple malien.
Mais Ron, le CNSP a déjà parlé deux langages. Le langage du 18 août qui était de céder le pouvoir aux civils. Et aujourd'hui, 18, de garder le pouvoir. Nous savons tous, nous sommes au Mali ici.
Oui.
Moi, je crains que cette jeune ne tombe dans l'erreur du passé, de 2012. Ce qui les encourage à maintenir le pouvoir, on les connaît tous. C'est l'ex-majorité du passé qui ont vite renversé le maillot. Tout le monde sait que le CNSP aujourd'hui est très mal conseillé.
Alors, ça c'est votre perception, Djoumé, à moins que vous soyez vous-même introduite au sein de la junte militaire. Le colonel-major Ismaël Wagué, c'est le porte-parole de la junte militaire, il a dit, on l'a entendu également s'exprimer, il dit, dans la mesure où la majorité, pendant les concertations nationales, donc la majorité du peuple, a parlé d'une transition militaire, nous avons suggéré au chef d'État ouest-africain qu'on puisse aller dans ce sens.
Mais pour et qui est cette majorité? Moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, le congrès qu'ils ont organisé, ils ont donné sur 600 cartes, ils ont donné que 40 au M5. M5 aujourd'hui, qu'on se le cache pas, hein, le M5 constitue la majorité du peuple malien aujourd'hui. Donc, c'est pas la majorité qui demande à ce que les militaires restent au pouvoir. Ça, c'est leur préparation à eux-mêmes.
Donc Djoumé, vous faites partie de ceux qui espèrent que la junte puisse désigner un civil pour la période transitoire. Vous restez en ligne Djoumé, je vous présente Aliou Djabi. Bonjour Aliou Djabi.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako également?
Bonjour.
Vous m'entendez bien?
Je suis à Bamako.
Alors non, ça va pas du tout, Aliou Djabi. Il y a des interférences, votre voix se robotise. Si vous n'êtes pas à l'extérieur, on a du mal à vous comprendre. Un petit mot, Djoumé, et on donne la parole à d'autres auditeurs. Vous disiez la CDAO doit être plus flexible, c'est-à-dire qu'elle lève les sanctions, même si elle n'obtient pas gain de cause de la part de la junte.
Moi, je souhaiterais que la CEDEAO soit flexible. Il ne faut pas que la CEDEAO aussi se cantonne sur une position fixe. Je suis d'accord que nous sommes en position de faiblesse parce que nous sommes affectés aujourd'hui par cet embargo. Mais je souhaiterais vraiment que la CEDEAO soit un peu flexible avec le Mali, qui nous donne le temps encore au CNSC de se ressaisir, de s'approcher encore des experts du M5 pour amener un président civil au pouvoir. Et même s'ils veulent rester au pouvoir, qu'on donne une partie. Par exemple, il y a la sécurité. Il y a le ministère de la sécurité, il y a le ministère des affaires l'administration
totale. Donc pourquoi ne pas envisager une transition mixte, civile et militaire? C'est ce que vous laissez sous-entendre à l'instant, Djoumé. On aura l'occasion de reparler de ce thème précis de la transition, évidemment, dans les prochains jours et la semaine prochaine, puisque l'envoyé spécial de la CEDEAO est attendu à Bamako dans le courant de la semaine prochaine. Et on verra si la junte accepte de revoir sa copie, comme lui ont demandé les dirigeants ouest-africains cette semaine. On va continuer à parler... du Mali. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, Oumar, et vous souhaitez vous revenir sur le parcours de Moussa Traoré. L'ancien président est décédé mardi à 83 ans. Ses obsèques ont lieu d'ailleurs aujourd'hui même, ce vendredi. Vous disiez au Standard, Oumar, Moussa Traoré, c'est un grand sage qui est mort.
Oui. C'est un grand sage qui est mort. Et Moussa Traoré, pour moi, c'est l'incarnation de l'homme noble, c'est-à-dire l'homme noble au sens étymologique du terme. Il était un homme plein de dignité, plein de fierté, et en tant que militaire, il avait le sens de l'honneur. En tant que président, je garde de lui l'image d'un dirigeant charismatique. Un homme à poigne.
Oui. Alors attendez, vous dites que vous gardez l'image d'un homme à poigne. Oui, c'est peu de le dire, Oumar. Vous avez connu les années Moussa Traoré, je ne sais pas quel âge vous avez, Moussa Traoré qui a pris le pouvoir en 68 et qui l'a rendu par la force des choses puisqu'il a été renversé en 1991. Donc vous avez connu les années Moussa Traoré.
J'ai connu les années Moussa Traoré et j'ai vécu son renversement bien qu'à l'extérieur.
Oui. Mais ce furent des années sanglantes. Ce furent des années sanglantes, Oumar.
Non, pour moi, non. Je ne garde pas ce souvenir de sanglant. Je garde plutôt le souvenir de l'homme charismatique qui cherchait à faire avancer son pays.
Oui. Sans autoriser la contestation. Aucune contestation n'était acceptée. Les opposants, les rivaux étaient éliminés les uns après les autres, Oumar.
Juan. Ces opposants, ces rivaux comme on parle. Vous savez, dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80, dans la plupart des pays africains, la guerre pour le pouvoir était infernale et sans pitié. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. C'était lui ou les autres.
Oui.
Donc pour ça, moi, je ne peux pas l'en vouloir pour ça.
Et quand on lit ici et là, Moussa Traoré fut un président dictateur, vous diriez quoi, vous, Oumar?
Non, il n'est pas dictateur. Je ne retiens pas. Vous savez, les opposants ont demandé l'instauration du multipartisme. Loyal et intégral qu'il est, il dit il n'y a pas de souci, on est là au multipartisme.
Oui, mais à quel moment l'a-t-il dit? Je n'ai pas toutes les dates en tête, mais il l'a dit sur la fin de son régime et par la force des choses. Il y avait des mobilisations, des manifestations populaires. Donc oui, au multipartisme, effectivement, mais après combien de morts? Bon, vous savez quoi, Oumar? C'est passionnant. On va pas faire les 20 minutes sur le parcours de Moussa Traoré, mais il se trouve que mardi prochain, le Mali célébrera les 60 ans de son indépendance, et ce sera l'occasion justement de revenir sur Moussa Traoré et sur toutes les personnalités, sur tous les événements qui ont marqué l'histoire du Mali ces 60 dernières années. Donc appelez-nous dès maintenant, inscrivez-vous, 33 9 693 693 70, et vous aurez l'occasion donc de nous livrer vos analyses avec nos invités. Dans la libre antenne, je vous le disais tout à l'heure en préambule, ce rapport qui fait polémique au Niger, la Commission nationale des droits de l'homme accuse des éléments de l'armée d'avoir commis des exécutions sommaires contre des civils. C'était fin mars, début avril, dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays. La Commission nationale des droits de l'homme qui a recensé 71 corps. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez nous interpeller sur ce rapport.
Évidemment, Juan, ce qui se passe à la lecture du rapport du CNDH, on comprend qu'il y a des choses horribles qui se sont passées à Inates. L'armée est incriminée. Malheureusement, nous avons entendu les autorités politiques nier les faits. Et non pas pour afficher un besoin réel de recherche de vérité, mais plutôt de protéger l'armée.
Le ministre, le ministre de la Défense a déclaré sur RFI que l'armée ne se reconnaissait pas dans ce rapport. Il a démenti l'implication de l'armée dans ces exactions.
Oui, et ce qui choque, c'est effectivement cette façon de voir les choses au niveau politique. C'est aussi cette cabale contre la CNDH qui a juste fait son travail d'investigation, qui a remis un rapport que les autorités judiciaires devraient analyser. Donc nous les citoyens, ce qu'on attend de l'autorité politique, c'est d'accélérer l'analyse de ce dossier, de remettre ça à la justice et de laisser la justice faire son travail.
Visiblement, c'est ce qui a été fait. Le ministre de la Défense affirme avoir transmis le rapport aux juridictions compétentes.
Oui, mais pas de défendre l'armée. Ce n'est pas une question de défendre X ou Y. C'est une recherche de vérité, parce que c'est ce que les citoyens attendent. Hein, les citoyens ont une information qui a été fournie, donc ils aimeraient bien connaître la vérité des choses, pas parce que tout simplement nous voulons dire que l'armée a commis des bavures, mais parce que nous voulons savoir la réalité des faits. Mais c'est pas ce qu'affiche l'autorité.
Bon, l'autorité en tout cas dément et dit avoir transmis le rapport à la justice, aux juridictions compétentes. Donc on verra. Vous souhaiteriez-vous que la justice se saisisse et que les militaires impliqués puissent être poursuivis?
Évidemment, quand on parle d'une armée républicaine, les bavures ne sont pas admises, elles ne sont pas acceptées. Nous sommes d'accord, on comprend, hein, le pouvoir a aujourd'hui besoin d'un moral haut de l'armée. Mais les citoyens nigériens ont aussi besoin d'une armée dont le moral est haut, mais d'une armée républicaine. Donc des bavures pareilles ne peuvent pas être acceptées comme ça.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Mamadou, merci de nous avoir appelés. De Niamey au Niger, la Guinée, toujours autant de réactions concernant la Guinée. Nous sommes à un mois quasiment jour pour jour de l'élection présidentielle. Le FNDC mobilise ses sympathisants. Le Front National de Défense de la Constitution appelle à de nouvelles manifestations à partir du 29 septembre. Théophile, bonjour.
Bonjour Ron, bonjour aux millions d'auditeurs des RFI.
Vous êtes à Conakry, Théophile, et vous disiez au Standard que vous irez manifester, vous, à partir du mardi 29 septembre.
J'irai manifester, Ron, parce que le FNDC est aujourd'hui droit dans ses bottes, et nous respectons cet engagement, et cette mobilisation doit être faite à la dimension de la grande guinéenne, parce qu'on n'a plus autre moyen d'expression que cela.
Ouais, manifester pour dénoncer la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat.
Il faut que cette candidature soit retirée, Juan. C'est la candidature la plus illégale du siècle. On ne peut pas nous continuer à nous forcer à légitimer de la rébellion d'État, étant donné qu'il a fallu que toutes les institutions, surtout tout le cadre juridique guinéen soit détruit pour qu'on puisse seulement valider la candidature d'un seul homme.
Mais manifester, en sachant que c'est interdit, il risque d'y avoir du coup des interpellations. Juan, les rassemblements restent interdits en raison de la situation sanitaire.
Juan, on parle d'interdiction dans un état de droit. Ce qui interdit, ce qui peut restreindre la liberté individuelle, ce n'est que la liberté collective, la souveraineté.
Oui, mais Théophile, on est en pleine crise sanitaire.
La crise sanitaire, l'État lui-même est en train de contribuer à ne pas faire croire aux citoyens qu'elle est réelle, dans la mesure où cet État fait des rassemblements quotidiens et faramineux tous les jours. Comment vous pouvez être le responsable qui devrait faire savoir au peuple la réalité d'une crise sanitaire et que vous êtes les premiers à appeler à des rassemblements sous un soleil de plomb où il y a de la transpiration qui vous permet de même de déstériliser toutes les entrailles du corps et vous mettre dans un grand risque de contamination pour que le peuple puisse vous croire, Juan.
Bon, Théophile, merci Yves d'avoir appelé. Là aussi, on reviendra sur la situation en Guinée, c'est promis. Il y a des réactions sur cet appel lancé par Guillaume Soro. Beaucoup de réactions, on en parlera lundi. Donc, je préfère privilégier l'un des sujets qui a suscité, alors j'étais surpris par cet engouement, mais je m'en félicite, de très nombreuses réactions sur notre page Facebook d'appel sur l'actualité concernant le premier satellite 100% burkinabé, satellite baptisé Burkinasat 1. Alors c'est vrai que cette semaine, Frédéric Ouattara, qui est le concepteur de ce projet, était dans cette émission. Il a répondu à une question d'auditeur. Du coup, plus de 400 d'entre vous ont envoyé un petit message. C'est le cas d'Alpha. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Ouagadougou et très fier de votre pays, très fier de ce projet.
Je ne cesserai de prononcer ce mot fier. On est fier et on est honoré et nous sommes très très heureux que ce soit le Burkina Faso et surtout à travers ce groupe de physiciens burkinabés avec le leadership de Frédéric Ouattara et surtout issu de cette université qui porte le nom de Norbert Zongo, un grand journaliste d'investigation. Et nous sommes très fiers d'avoir ce satellite 1.
Alors, il n'est pas encore fabriqué. Il va falloir patienter. Il y a déjà eu la station au sol qui a été réceptionnée. On commençait il y a quelques jours la construction du cube satellite et il va falloir patienter courant 2021 pour que tout soit prêt, finalisé. Puis il va falloir aussi, lancer ce satellite. Le Burkina Faso n'est pas équipé de lanceurs. Alors, Frédéric Ouattara nous disait, on est en pourparler avec le Japon. Mais en tout cas, voilà un projet qui fait la fierté du Burkina Faso. Certains pourraient dire, mais pourquoi un satellite pour un pays qui a peut-être d'autres priorités que la conquête spatiale?
On part à l'école, les 26 lettres de l'alphabet, on part pour le développement dans tous les sens, dans tous les domaines. Chacun doit briller dans son domaine. Et Frédéric Ouattara fait partie des physiciens. Et il doit produire quelque chose pour le développement du Burkina, le développement de l'Afrique et le développement du monde.
Ouais, Frédéric Ouattara, qui est astrophysicien, il est enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo de Kudugu. Donc Kudugu va devenir une cité spatiale. Qui sait, peut-être Kudugu sera le prochain Cap Canaveral du continent africain. Vous restez en ligne, Alpha. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous êtes à Dakar au Sénégal, vous aussi vous saluez ce projet, cette innovation scientifique.
Oui, je le salue avec beaucoup de fierté, comme a dit mon frère le Burkinabé. Mais justement, je pense que c'est un projet qui devrait être partagé à tous les Africains. Parce qu'à mon avis, ce genre de projet, c'est toujours plus intéressant quand chacun y mêle son grain de sel, quoi.
Oui. Donc plutôt qu'un satellite 100% burkinabé, vous plaidez, vous, pour un premier satellite ouest-africain?
Africain. Parce que imaginons que le Nigeria développe ses satellites. Le Nigeria a déjà deux satellites, je crois. Alors l'Afrique du Sud aussi de son côté. Et quand il y a des enjeux comme la géolocalisation, la surveillance spatiale, sachant que chez nous en Afrique, on a des problèmes sécuritaires, donc c'est des outils dont on a vraiment besoin. Certes, on a d'autres besoins, mais bon, la sécurité, elle est toujours primordiale, en fait.
Oui. Ce satellite, il servira notamment à lutter contre la désertification, prévenir les catastrophes naturelles, détecter les ressources en eau souterraine. Frédéric Ouattara nous disait qu'il permettra de gérer les prévisions météorologiques. Donc, voilà, un satellite qui sera censé répondre aux besoins fondamentaux de la population, puisque la priorité, évidemment, c'est d'avoir accès à l'eau potable, c'est de pouvoir se nourrir, de pouvoir se soigner. Merci à tous les deux. Ouais. Un dernier mot, Alpha, à Ouaga.
Je remercie le président du Faso qui a reçu le professeur et qui a validé et qui a mis les moyens pour que ça soit une réalité au Burkina Faso.
Donc, effectivement, c'est vrai que le président Kaboré soutient ce projet, l'État burkinabé finance ce projet, on le suivra évidemment et merci à tous de l'intérêt que vous portez au satellite burkinabé, Burkinasat 1, voilà, je recherchais le nom, Burkinasat 1, gardez-le en mémoire. Lundi, nous parlerons donc de la